Bonjour et bienvenue pour cette troisième chronique de la bibliothèque du planning familial. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit retour sur la dernière permanence de juin où nous avons reçu Élodie Serna, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Opération Vasectomie, histoire intime et politique d'une contraception au masculin. Et du coup, vous allez pouvoir entendre la présentation qu'elle a fait de ce livre lors de la permanence. Mais avant, on vous propose de rencontrer La Limousine, une librairie itinérante basée en Creuse, qui nous a aussi rendu visite en juin avec son stand de livres, et donc tout de suite la rencontre avec Paco et Margot de La Limousine. Donc on a reçu deux personnes de la librairie La Limousine aujourd'hui à la permanence du planning, à la permanence de la bibliothèque du planning. Margot et Paco. Je voudrais vous poser la question de savoir depuis quand cette librairie existe et qu'est-ce que c'est le projet global.
L'association, elle a été créée en fin janvier, début février, fin janvier. Et depuis, on met ça en place. Donc, le projet, c'est d'être une librairie associative itinérante. Et donc, il y a eu tout un moment où on a cherché la caravane dans laquelle on va être. Maintenant, on est en train de la retaper, etc. Et donc, ça existe depuis fin janvier.
Donc, globalement, le but, c'est que... Paco était pas mal dans le milieu du livre avant qu'on arrive en Creuse. Et du coup, l'idée, c'était d'amener le livre avec nous et d'essayer de développer ça. Puis on s'est rendu compte que les villes, si on peut dire, en Creuse, n'étaient pas forcément très grandes et que c'était pas forcément facile de toujours trouver un lieu fixe pour pouvoir avoir une librairie à un endroit parce que... parce qu'il n'y a pas forcément toujours assez de monde pour pouvoir faire vivre le lieu. Et du coup, le fait d'avoir une caravane et de pouvoir nous déplacer, ça pouvait permettre de rencontrer plus de monde et d'avoir peut-être un plus grand public.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette caravane?
Des livres sur tout un tas de sujets, mais surtout du coup des livres qui viennent d'éditeurs indépendants. Qui sont choisis par nos soins. On essaye d'avoir des collections complètes d'une maison d'édition. Il y a aussi un certain nombre de revues. Et puis, on va aussi développer sur des fanzines et peut-être un petit peu d'artisanat.
L'idée, c'est d'essayer d'être généraliste, donc d'avoir autant du livre pour enfants, de la BD, que du roman ou des essais en sciences humaines. Donc d'offrir une offre assez large tout en essayant vraiment de privilégier les personnes avec qui on choisit de travailler. Donc des petites structures ou des structures qui ont un positionnement politique ou dans leur manière de fonctionner particulier. Essayer vraiment de pas spontanément présenter les mêmes livres qu'on pourrait trouver dans toutes les librairies, quoi, d'essayer d'aller vers des choses plus confidentielles.
Et où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver dans cette fameuse caravane?
Donc normalement, à partir de septembre, on va essayer de mettre en place une petite tournée de marché dans la Creuse et peut-être une partie du plateau de Millevaches. Et après, ça va être au gré aussi des événements culturels de cette région-là. Nous, notre but, c'est vraiment ça, d'avoir une petite tournée régulière et après d'être sur des... à droite, à gauche, sur des événements ponctuels.
Et vous avez, on peut aussi trouver vos contacts sur les internets, j'imagine.
On a effectivement un site internet. Et après, sur les réseaux sociaux, type Facebook, Twitter ou Instagram.
Le site, c'est lalimousine.fr. Et a priori, il y a possibilité de voir le stock disponible et puis d'acheter des livres.
Merci à Paco et Margot de La Limousine. Et maintenant, on retrouve la présentation d'Élodie Serna pour son livre Opération Vasectomie.
je viens vous présenter ce livre, Opération Vasectomie. Ce bouquin, il est issu d'un travail que j'avais fait pour une thèse d'histoire. Et j'avais commencé à travailler au départ sur une affaire bien particulière qui s'est passée à Bordeaux dans les années 30, où je cherchais des infos sur la vasectomie, sur les différents modes de contraception, etc. Et je tombais régulièrement, à propos de vasectomie, sur ce qui était qu'une anecdote, sur le fait que dans les années 30, il y avait des gens qui avaient été arrêtés à Bordeaux, qui s'étaient retrouvés en prison pour avoir fait des vasectomies de façon clandestine dans un appart. Et donc ce truc, cette anecdote-là m'a un peu intriguée. Et puis donc j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre comment, dans les années 30, des hommes, des femmes pouvaient avoir connaissance de cette opération-là. Ce qui m'avait étonnée, c'est qu'en en fait, on fait encore très peu de vasectomie en France. Donc j'avais imaginé que c'était quelque chose de récent. J'avais pas imaginé que ça pouvait déjà être assez courant dans les années 30 pour que les gens ordinaires se saisissent de ce procédé-là. Et en fait, en faisant ces recherches, je me suis rendu compte que dans les années 30, c'était un mot qui était très connu, que la vasectomie était un procédé connu, qu'il y avait eu quantité d'articles dans des journaux grand public sur cette affaire, mais aussi dans des journaux scientifiques sur... des vasectomies qui étaient à visée rajeunissante. On prêtait des vertus revirilisantes et rajeunissantes. Donc ça se faisait dans des cliniques, dans des hôpitaux, et c'était pas du tout quelque chose d'inédit, quoi. Et donc j'ai fait une thèse sur la stérilisation masculine, les différents types de stérilisation masculine dans les années 20 et 30, en partant de cette affaire de Bordeaux et en suivant le parcours de la personne qui avait fait les opérations, qui n'était pas du tout un chirurgien, un médecin, mais qui était un homme qui se présentait comme marchand de savon. Et donc, en suivant son parcours, je suis remontée jusque là d'où il venait, en Autriche. Et je me suis rendu compte qu'il avait opéré aussi en Espagne et en Belgique, a priori aussi en Suisse, à Genève. Et tout ça, c'était dans des milieux anars, avec un discours militant qui défendait cette pratique. Et en parallèle de ça, donc, il y avait des opérations qui se faisaient dans des hôpitaux, des cliniques, qui étaient défendues avec une théorie très poussée par des endocrinologues. Et dans la même période, il y avait aussi des stérilisations qui se faisaient dans un but eugéniste. Donc, je ne sais pas si le terme eugénisme est hyper clair, mais l'idée de l'eugénisme, c'est de sélectionner les naissances, de faire en sorte d'améliorer la population. Alors, ça peut être à caractère raciste ou ça peut être la population en général. Et donc, j'ai travaillé sur ces différents types de stérilisations qui étaient concomitantes. Et puis, il y a eu la proposition de Libertalia de poursuivre un peu ce travail-là, pour sortir du travail purement historique sur cette période et faire quelque chose qui parle un peu à tout le monde maintenant et qui questionne nos propres pratiques de contraception, notre propre rapport à la contraception. Et donc, j'ai étendu ce travail-là sur un siècle, finalement, donc en repartant de ses débuts, fin des années 1910, début des années 20, jusqu'à aujourd'hui, et donc en élargissant aussi la zone géographique, en prenant, selon les thématiques qui me semblaient les plus fondées pour chaque période, en prenant des espaces géographiques différents. Donc dans le bouquin, à chaque fois, il y a, pour une même période, une espèce d'état des lieux assez général, pas forcément mondial, mais en tout cas qui prend des espaces géographiques hyper larges, et ensuite la même période en France. Et donc, le bouquin il s'ouvre sur cette période des années 20 et 30, et ensuite il y a une deuxième partie où c'est sur les années 50 au début des années 80, où là il est question des politiques démographiques, parce que dans un deuxième temps, après la guerre, en fait, il y a eu une grande peur de l'explosion démographique, de l'explosion de la population mondiale. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui ont commencé à mettre en place des politiques assez restrictives, contraignantes, et notamment l'Inde, où il y a eu, pendant de 59 jusqu'à 77, il y a eu des campagnes de vasectomie massive. Donc, les femmes étaient quand même concernées par ces campagnes-là, dans le sens où c'était aussi une période où on posait énormément de stérilés. Et que ce soit les stérilés ou les vasectomies, c'était dit comme volontaire, mais forcément il y avait tout un tas de contraintes. Et donc voilà, c'est un volontariat hyper relatif. Et voilà, en prenant l'exemple de l'Inde, c'était aussi pour, voilà, pour montrer que ce qui nous semble rare et encore peu connu ici, à certaines périodes, la vasectomie a quand même été un outil important dans les politiques démographiques et une méthode de contraception qui a été largement envisagée. Donc c'était le cas en Inde, ça a aussi été le cas par exemple aux États-Unis où des années 70, il y a des centaines de milliers d'hommes qui se font vasectomiser chaque année, quoi. Donc ici en France, on est vraiment sur une situation assez particulière parce que voilà, c'est pas forcément un retard, mais en tout cas c'est une différence culturelle, une différence dans l'organisation du système de santé qui fait que ça reste encore aujourd'hui 10 000 personnes par an. Il y a encore quelques années, c'était 5 fois moins. Enfin, c'est vraiment très 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 peu, quoi. Et donc ça, voilà, ça semblait intéressant de faire un bouquin qui soit depuis un point de vue historique sur une question qui est assez peu connue en France. Et de le sortir maintenant parce que, en fait, le 4 juillet, ça fera 20 ans qu'il y a une loi qui autorise les stérilisations volontaires en France, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et en fait, qu'on puisse faire le choix de se stériliser seulement depuis 2001, ça paraît hyper tardif et ça pose aussi des questions sur notre rapport à voilà, nos libertés de disposer de nos corps, comme on l'entend, de la pression sociale à la procréation, et du rapport, voilà, qui n'est pas qu'une question intime, une question personnelle, mais de l'enjeu politique et démographique qu'il y a autour du fait de se reproduire, quoi. Le livre, il avait un peu deux volontés. La première, c'était donc de mettre... voilà, de faire découvrir une histoire qui n'est pas du tout connue, c'est-à-dire que quand on lit des bouquins sur l'histoire de la contraception, en fait on parle surtout des contraceptions médicalisées qui sont à destination des femmes depuis les années commercialisées depuis les années 60. Mais tout ça, c'est un pan vraiment qui apparaît jamais. Et donc il y a cette volonté de mettre au jour des pratiques pas du tout connues et aussi d'élargir la question de la vasectomie à la contraception masculine en général parce qu'aujourd'hui il y a des techniques, il y a des méthodes qui sont disponibles et qui restent hyper, je sais pas comment dire, mais qui restent hyper marginales, quoi. Où il y a un vrai effort de plusieurs collectifs de les faire connaître. Et puis, ici au planning, vous les connaissez bien, mais dans la population générale, c'est un impensé total que des hommes puissent se contracepter et les méthodes en elles-mêmes, qui, pour ma part, me semblent hyper simples par rapport à ce que les femmes subissent, ça semble assez fou, en fait, quand on en a connaissance, de voir qu'un anneau ou un slip pourrait résoudre les difficultés que plein de femmes rencontrent au cours de leur vie, quoi. Donc ça me semblait important de pas rester juste sur la stérilisation pure, mais aussi de parler de contraception un peu plus largement pour aussi que ça nous... Peut-être le terme même de stérilisation, ça fait un peu peur ou ça donne l'impression que c'est réservé à des situations très particulières, soit des catégories de population, soit des hommes ultra déterminés dans leur choix. Et en fait, la réflexion qui s'ouvre sur la vasectomie, elle est un peu la même que celle qui peut s'ouvrir sur l'ensemble des méthodes de contraception masculine. Donc voilà, cette volonté-là. Et de le faire avec... moi, je suis... voilà, je suis historienne, je suis pas médecin, je suis pas non plus militante du planning ou d'une autre structure qui, sur ces questions-là. Donc je l'ai abordé comme je peux l'aborder, quoi. Mais j'ai l'impression quand même que de reposer les choses avec ce surplomb historique, ça permet de rendre plus... De démythifier, mais de rendre plus banal le geste chirurgical. Parce que hyper souvent, quand je préparais ma thèse, quand j'expliquais aux gens ce sur quoi je travaillais, ils disaient, ben, je fais une thèse sur la vasectomie. Hyper souvent, les hommes, ils avaient une espèce de réflexe mécanique, physique, de mettre les mains devant leur... les mains devant leur sexe, comme ça, et puis d'avoir un truc de frisson. Mais ça fait vraiment un truc repoussoir, quoi. Et du coup, je pense que de dire, mais en fait, il n'y a rien d'inédit à ça, ça fait 100 ans que ça se fait, y a des réflexions derrière qui sont différentes selon les périodes, mais qui toujours viennent questionner le rapport à du fait que les femmes soient assignées aux tâches liées à la reproduction et donc à la contraception, et que des hommes se questionnent là-dessus, ou pour des questions très pragmatiques, s'investissent là-dedans. Ça semble aujourd'hui presque super. Enfin, moi, j'ai trouvé en lisant beaucoup de choses sur la vasectomie, sur Internet, ou en écoutant des podcasts, etc., on a l'impression que waouh, faut être super féministe ou hyper engagée, et non, en fait, c'est une méthode comme une autre, et c'est pas plus héroïque de le faire que quand une femme prend une contraception, quelle qu'elle soit, quoi. Et je pense que le fait de questionner tous ces trucs-là avec un point de vue historique, ça permet aussi de... peut-être de penser autrement les choses que juste en termes personnels ou relationnels de soi et son couple, et de redonner un peu de sens à nos choix, quoi, et à ce que nos manières de faire au quotidien. Et donc voilà. Et un autre truc aussi sur lequel j'ai essayé d'être attentive, c'est que c'est pas un préjugé de ma part, mais c'est en étudiant vraiment le truc. Sur des périodes différentes et dans des espaces géographiques différents, c'est que, en fait, ça m'a semblé assez évident que dans l'histoire de la contraception, il n'y a pas juste une relation, il n'y a pas juste une histoire des relations entre hommes et femmes, une histoire du genre, mais qu'il y a énormément une histoire de classe, et que, la manière de se contracepter, les freins à la contraception, les encouragements à la procréation, etc., sont hyper liés à la situation sociale, à l'appartenance de classe, et que à travers les injonctions à la procréation ou à la contraception, donc notamment avec la stérilisation contrainte, forcée, y a des enjeux vraiment de politiques forts sur qui doit se reproduire, de quelle manière et comment on discipline les gens pour avoir tel type de reproduction, dans quel cadre, dans quel moment, et sous quelle autorité, etc. Et sur la période des années 70-80, il y a des groupes d'hommes qui ont commencé à investir la question de la contraception, avec vraiment aussi dans la continuité des mouvements de femmes pour l'accès libre à la contraception et à l'avortement. Et à ce moment-là, il y avait un discours assez fort aussi sur la critique du pouvoir médical. Et là, en fait, dans les méthodes qui existent aujourd'hui, donc la vasectomie est hyper encadrée aujourd'hui en France, mais en fait, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas d'autres, c'est des cas d'opérations clandestines qui se sont faites un peu ailleurs aussi. C'est un geste chirurgical hyper simple, alors je prône pas du tout le fait de faire des opérations chez soi n'importe comment, mais en tout cas, c'est un geste hyper simple qui a pu aussi être démédicalisé. Et dans les années 70-80, donc les hommes qui sont emparés de la question de la contraception, qui ont élaboré, expérimenté des nouvelles méthodes, ils l'ont fait donc avec ce qu'on connaît maintenant, le slip contraceptif ou la remontée testiculaire. Et un des axes forts de leur truc, c'était justement de pouvoir faire ça de façon absolument autonome et de sortir de la question de l'autorité médicale, quoi. Et ça, c'est... Enfin, c'est le sous-titre que j'ai donné au bouquin, c'est Histoire intime et politique. Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on aborde cette question de la vasectomie, c'est à travers des témoignages individuels, c'est sur des récits de couple. Et puis, il m'a semblé qu'à travers ça, il y avait plein d'autres questions qui se posaient sur le rapport à la reproduction en général et qu'on pouvait l'aborder comme vraiment une donnée importante, enfin des rapports sociaux dans leur ensemble, avec le truc où il n'y a pas que la production capitaliste et une sphère privée, mais qu'il y a vraiment un travail de reproduction et que la contraception en fait partie et que ça mérite d'être questionné, pas juste comme une question relationnelle, mais comme un truc politique qui nous engage vachement plus largement que sur juste les méthodes qu'on choisit pour nous, quoi.
Vous venez d'entendre Élodie Cernat, qui est venue à la permanence de la bibliothèque de juin pour nous présenter son livre Opération Vasectomie, un livre que vous pouvez bien sûr retrouver dans les rayons de la bibliothèque. Et voilà, c'est la fin de cette chronique. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous pouvez nous retrouver et trouver toutes les informations sur le planning familial sur Facebook. Et vous pouvez aussi avoir accès au catalogue de la bibliothèque par internet à l'adresse mabib.fr/planning du plateau, tout attaché, et à nouveau un slash. Et on se retrouve mercredi 7 juillet à la bibliothèque du planning de Perlevade. À très bientôt!